Les leçons du Collège de France.
Monsieur l'administrateur, mes chers collègues, mesdames, messieurs, chers amis. Si vous avez déjà assisté à d'autres leçons comme celle que je vais donner aujourd'hui, vous savez que le conférencier commence souvent par exprimer l'étonnement qu'il a ressenti en apprenant qu'il pourrait être candidat à un pareil honneur et le bonheur que lui a donné sa nomination. J'ai aussi éprouvé ces sentiments, mais j'ai été particulièrement étonné, puisque étant étranger, je n'avais même jamais songé à la possibilité d'une telle position. J'ai déjà partagé ma vie entre 5 pays, les États-Unis, l'Angleterre, la Suisse, l'Allemagne et les Pays-Bas. Et je vais maintenant y rajouter un 6e, un pays que j'ai aimé depuis mon enfance. Mon bonheur aussi est donc sûrement aussi grand que celui éprouvé par mes collègues français. Il est, je crois, d'usage, lors d'une leçon inaugurale au Collège de France, d'évoquer les liens entre la chaire nouvelle et celles qui l'ont précédée. Dans mon cas, il y a 2 parmi les 3 chaires de mathématiques qui ont été récemment renouvelées, avec lesquelles je me sens très étroitement lié, tant au point de vue personnel que scientifique. Ce sont les professeurs Jacques Titz et Jean-Pierre Serre, ici présents. Je connais le premier depuis l'âge de 19 ans, puisque j'étais étudiant doctoral, puis postdoctoral à l'Université de Bonn, quand il y était professeur, avant d'être nommé ici. Non seulement ses qualités évidentes de grand mathématicien, mais aussi son sens de l'humour et sa passion pour les langues ont été un modèle et une source d'inspiration pour moi. Je voudrais le remercier à cette occasion pour son extrême bonté envers moi pendant tout le temps où je l'ai côtoyé et pour son soutien constant pendant la période de ma candidature ici. De plus, il a eu depuis des années la gentillesse de corriger mes fautes de français les plus flagrantes. S'il en reste encore trop aujourd'hui, c'est sûrement dû au manquement de l'élève et non du maître. Avec Jean-Pierre Serre, que je connais également depuis presque 30 ans, j'ai des liens mathématiques encore plus étroits. La théorie des nombres et plus particulièrement la théorie des formes modulaires, qui sont mes disciplines de recherche, comptent en effet parmi les nombreuses branches auxquelles il a apporté des contributions essentielles. J'ai beaucoup appris de lui, tant sur notre science que sur les questions de goût et sur la meilleure façon d'exposer les mathématiques, domaine où il est sans égal. À ce sujet, je me souviens encore aujourd'hui d'une leçon qu'il m'a donnée 6 heures durant, lors d'un Arbeitstag à Bonn, quand je n'avais que 23 ans. J'espère avoir appris au moins un peu de ce qu'il a essayé de m'enseigner. Mes chers collègues, mesdames, messieurs, en préparant cette leçon, mon intention première était de me présenter grâce à quelques considérations d'ordre personnel. Peut-être aurais-je aussi rajouté quelques réflexions générales sur le rôle et la nature des mathématiques. Mais j'ai préféré ne pas le faire et donner à cette conférence une orientation strictement mathématique. L'idéal serait bien sûr qu'elle soit à la fois compréhensible pour les non-mathématiciens et non-triviale pour les mathématiciens. C'est évidemment un but inaccessible et je crains même d'arriver au résultat exactement opposé. Mais j'aimerais quand même essayer au moins de vous montrer la beauté de ma discipline et la fascination qu'elle peut exercer au point d'y consacrer une vie. En fin de compte, c'est peut-être aussi la meilleure façon de me présenter. Parmi les différentes branches de mathématiques dites pures, la théorie des nombres est dans un sens la plus pure de toutes. Dans un sens, c'est le domaine le plus éloigné des applications concrètes en technologie ou en science, bien que celles-ci existent, notamment en cryptographie et en théorie de code. D'autre part, les objets étudiés, à savoir les nombres entiers 1, 2, 3, etc., sont les objets les plus basiques, les moins construits, de tous les objets étudiés par les mathématiciens. Et dans cette théorie, L'étude des équations dites diophantiennes est peut-être la plus séduisante et la plus accessible aux non-spécialistes. C'est de cette théorie et des théories liées des courbes elliptiques et des formes modulaires dont je vais vous parler aujourd'hui et aussi dans les cours que je donnerai dans les prochaines années. La théorie des nombres est non seulement la plus pure, mais aussi l'une des branches les plus anciennes des mathématiques. Déjà dans l'Antiquité, par exemple, on a étudié la question de trouver des solutions en nombres entiers, comme par exemple 9, c'est visible ou pas trop? Ça va? La question de trouver des solutions en nombres entiers, comme 9 plus 16 égale 25, de l'équation A2 plus B2 égale à C2. Cette équation, motivée initialement par le théorème dit de Pythagore, grande différence, par le théorème de Pythagore et par la nécessité de mesurer les parcelles, de construire des angles droits pour mesurer les parcelles rectangulaires, a été analysée ensuite bien au-delà de ce besoin pratique par plusieurs peuples anciens tels que les Chinois, les Grecs, les Indiens, etc. Ils ont tous découvert des algorithmes qui nous permettent d'obtenir non seulement une solution, mais une infinité de solutions de cette équation. Bien sûr, on a étudié aussi d'autres questions en théorie des nombres à cette époque, par exemple les nombres premiers, leur définition, la décomposabilité de chaque nombre en facteurs premiers, tout ça se trouve dans les éléments d'Euclide. Mais c'est surtout Diophante, un mathématicien alexandrin du 3e siècle de notre ère, qui a inventé tout d'abord un système de notation algébrique et aussi le domaine qu'on appelle maintenant les équations diophantiennes, c'est-à-dire la question de résoudre de telles équations en nombre entier ou fractionnaire. Ces équations ont continué à fasciner les mathématiciens professionnels et amateurs depuis cette date. Dans ma leçon aujourd'hui, j'essaierai, sans suivre ce chemin historique, de vous donner quelques idées des questions étudiées dans le domaine, des résultats obtenus et des liens souvent inattendus avec d'autres branches des mathématiques. Je commence par un exemple simple et classique. C'est une question posée par Fermat au XVIIe siècle et on croit aussi devant lui déjà par Diophante. C'est la question de savoir pour un nombre P premier, un nombre premier P, donc un nombre qui n'a pas de facteur plus petit que lui-même, si ce nombre se décompose en deux carrés, en somme de deux carrés. Donc est-ce que P s'écrit comme x2 plus y2? Fermat a trouvé et a démontré également la réponse qui est très très belle, très simple et très belle. Si on met de côté le nombre premier 2, un peu exceptionnel, qui s'écrit évidemment comme 1 plus 1, qui sont des carrés, alors P sera un nombre impair et je peux l'écrire comme 2n plus 1. Alors maintenant, si je fais l'essai, vous voyez que dans tous les cas, quand j'essaie pour le premier 3, 5, 7, 11, etc., et je regarde si ou non P s'écrit comme x2 plus y2, alors vous voyez la moitié du temps ça marche, l'autre moitié ça ne marche pas, et quand vous voyez la table à droite, vous voyez que ça marche exactement comme quand le nombre n lui-même est pair. Ça, c'était le théorème de Fermat. Ce théorème est considéré aujourd'hui comme très très simple. On en connaît à peu près une centaine de démonstrations différentes, et c'est d'ailleurs moi personnellement qui détient le record mondial pour la démonstration la plus courte. Mais ce théorème qu'on voit maintenant comme étant très facile est quand même très très profond et a donné lieu à de nombreuses théories d'une grande importance dans les mathématiques contemporaines, telles que la théorie algébrique des nombres, la théorie des anneaux, la théorie des corps de classe, etc. Pour ma conférence aujourd'hui, je ne vais pas considérer cette équation, mais une autre classe de problèmes un peu différent, celle de trouver les points rationnels sur des courbes planes. J'écris peut-être des mots clés. Donc j'avais déjà comme thème général les équations diophantiennes. Et maintenant les points rationnels. Si on reprend l'exemple que j'avais tout à l'heure, qui est toujours là, x2 plus y2 égale à c2, vous voyez qu'on n'a qu'à diviser le tout par ces deux pour changer cette équation. Dans l'équation équivalente, x2 plus y2 égale à 1, donc une équation équivalente est plus simple. Mais maintenant, il s'agit d'en trouver les solutions rationnelles, comme dit le mathématicien, ou fractionnaires. Les solutions en fraction, dans ce cas-ci, 3 cinquièmes au carré plus 4 cinquièmes au carré égale à 9 25e plus 16 25e égale donc à 1. Mais ce changement de point de vue a l'avantage que l'on sait qu'une telle équation, donc j'ai une équation qui relie deux nombres x et y, ici x2 plus y2 égale à 1, une telle équation décrit une relation entre x et y qui a une représentation visuelle que bien sûr Diophant ne connaissait pas, qui a été découverte par les mathématiciens français Descartes et Fermat, comme un graphe dans le plan, enfin comme une courbe dans le plan. Dans notre cas, le cas que je n'aurais pas dû enlever, vous voyez que l'équation est la courbe et l'équation d'un cercle. Alors, on a donc changé le point de vue. Il s'agit maintenant de trouver des points à coordonnées rationnelles, comme 3 cinquièmes, 4 cinquièmes, et on appelle ces points-là des points rationnels. Voilà donc la question dont on s'occupe, une question très très profonde. Alors, une découverte d'une importance capitale, qu'on peut déjà sentir dans un sens dans Diophant, mais dont toute la portée n'est devenue évidente que de nos jours, c'est le fait que les courbes dont il s'agit, donc les courbes algébriques dans le plan, se divisent en trois grandes classes qui ont des propriétés totalement différentes, géométriquement et aussi arithmétiquement. Elles s'appellent les courbes rationnelles. Les courbes elliptiques et les courbes dites de type général, c'est-à-dire le reste. Et ma première tâche va être de vous montrer un peu ce que ces trois classes et comment elles diffèrent entre elles. Je commence donc par les courbes rationnelles. Ce sont grosso modo les courbes données par des équations dans le plan de degré 2, comme le cercle qu'on a déjà vu. La grande découverte de Diophant, qu'il a illustrée dans les nombreux exemples dans l'Arithmetica, son chef-d'œuvre, est que pour des courbes appartenant à cette classe, degré 2 donc, il y a une méthode simple et générale qui nous permet de trouver non seulement une solution, mais toutes les solutions, et il y a toujours une infinité de solutions rationnelles, donc de points rationnels. Le point de départ d'un point de vue moderne, c'est le fait très simple que si on a une telle courbe de degré 2 et on prend une ligne qui la coupe, alors forcément cette ligne la coupe dans un deuxième point. Enfin, c'est une ligne générique, pas tangente. Et si le premier point, le point de départ, et la ligne même sont à coefficient rationnel, alors forcément le deuxième point, lui aussi, aura des coordonnées rationnelles. Alors, si on fait ça dans le cas du cercle, on commence avec le point connu au pôle sud, donc au point le plus bas du cercle. J'aurais pu choisir un autre point, comme 3 cinquièmes, 4 cinquièmes. Donc je prends le point x égale 0, y égale moins 1, et je prends maintenant une ligne de pente quelconque, mais rationnelle, après, t, une ligne qui passe par ce point, et qui va forcément couper le cercle dans un deuxième point, x, y, dont je peux calculer les coordonnées. Et c'est ce calcul qu'a fait Diophant, qui bien sûr, comme j'ai dit, ne connaissait pas cette interprétation géométrique. Il l'a fait, je vous montre le calcul, qui est très simple, vous pouvez le lire ou ne pas le lire. Donc, on substitue l'équation de la droite, je ne sais pas si c'est lisible, je l'espère. On substitue l'équation de droite, y égale moins 1 plus tx, dans l'équation de cercle, on fait quelques petits changements, enfin c'est d'algèbre d'école, et après 4 ou 5 étapes, enfin c'est vraiment un niveau très simple, on trouve les formules que voilà, x égale 2t sur t2 plus 1, y égale t2 moins 1 sur t2 plus 1. C'est-à-dire, on a trouvé quelque chose de très très joli. On a trouvé ce qu'on appelle une paramétrisation de la courbe, Et ça sera une notion clé aussi pour ce qu'on fait aujourd'hui. Une paramétrisation veut dire qu'il y a deux fonctions, x majuscule de t et y majuscule de t. Dans ce cas-ci, ce sont les fonctions que voilà, 2t sur t, 2 plus 1 et l'autre, telles que ces fonctions-là satisfont identiquement à l'équation de la courbe, ou pour le dire différemment, si vous allez parcourir la courbe avec dans le point t votre doigt au point aux coordonnées x de t, y de t, votre doigt va marquer, va dessiner toute la courbe. Alors ça, je peux vous montrer dans notre cas, quand le t bouge ici, vous commencez par moins infini, moins 2, moins 1, etc. Le t monte et on fait une fois le tour du cercle. Alors voilà une telle paramétrisation. Et en même temps, comme vous voyez de ces formules, si on prend pour t une valeur rationnelle quelconque, comme par exemple t égale 2, automatiquement on trouve un point rationnel. Et voilà donc l'idée très simple de Diophante pour cette première classe. La même méthode marche toujours dans cette classe de courbe rationnelle, le courbe de degré 2. Il y a quand même une remarque à faire, c'est que ce n'est pas la seule paramétrisation. On a ici un choix. Ici, c'était une paramétrisation par deux fonctions, et ça serait toujours le cas, des fonctions rationnelles, c'est-à-dire des fonctions qui sont des quotients de polynômes. Vous le voyez, par exemple, t2 moins 1 sur t2 plus 1. Ce sont des fonctions très simples qui s'appellent rationnelles, d'où le nom. Mais on peut tout aussi bien prendre une autre paramétrisation, dans ce cas-ci, et c'est toujours possible, par des fonctions trigonométriques. Dans ce cas-ci, ce serait les fonctions cosinus t et sinus t, qui satisfont elles aussi identiquement à l'équation x2 plus y2 égale 1. Et là, vous aurez aussi un point qui, quand t bouge, donc dans le temps, va tracer la courbe, mais cette fois-ci, une infinité de fois, je commence par exemple par t égale 0, pi sur 2, pi, 3 pi sur 2, 2 pi, 4 pi, etc. Mais vous voyez que je vais trouver le même point, par exemple ce point-là, le point 1, 0, une infinité de fois. La raison étant que cette fonction-ci est périodique, donc elle possède, comme je l'ai écrit ici, elle possède la propriété que si vous faites une translation t va vers t plus 2 pi, la fonction, la valeur des deux fonctions même, x de t et y de t, ne change pas. Ça aussi, bien sûr, on peut le représenter de façon graphique, comme il suit. Alors, ici, on a donc même un certain choix. On a des paramétrisations par des fonctions soit rationnelles, soit trigonométriques. Si nous continuons maintenant aux équations de degré 3, là, ce sont les courbes elliptiques. Bon, tout d'abord, on ne saurait pas pourquoi degré 2, degré 3, pourquoi c'est ça qui a une si grande importance. Mais vous allez voir pourquoi. Ce qui se passe si on a une courbe de degré 3, donc une courbe qu'on nomme une courbe elliptique, je vais dire pourquoi dans un instant, vous voyez qu'il y a quelque chose qui a changé. Maintenant, le degré est 3, et donc une ligne quelconque qui avant a coupé la courbe en deux points, maintenant va couper la courbe en trois points. Donc la méthode de Diophante échoue. Si je commence avec un point P qui m'est connu, qui est déjà rationnel, il n'y a aucune raison pour que les deux autres points Q et R, que je peux bouger de façon continue, soient eux aussi rationnels. Mais si P et Q, les deux, si donc deux des trois solutions, des trois points sur cette ligne, sont déjà à coefficient rationnel, alors le troisième point le sera automatiquement. Ça nous donne donc quelque chose de très très important, c'est une méthode de composition, on dit aussi d'addition. Je peux prendre la somme ou la composition de deux points, P et Q, et trouver un autre point, bon ce n'est pas exactement la somme, c'est presque la somme, moins P moins Q, qui sera R. Cette méthode, est déjà, on peut déjà la trouver chez Diophante, pas dans ce cas-ci, dans le cas le plus général. Diophante l'a fait, évidemment, encore une fois, sans connaître cette interprétation géométrique, uniquement dans le cas où deux des points coïncident. Donc on commence avec par un seul point connu, P égale Q. On prend la ligne tangente, donc ça veut dire qu'on compte le point P deux fois. On obtient un deuxième point dans ce cas-ci, R, qui sera lui aussi à coefficient rationnel si P l'était. Et si on veut, on peut répéter la méthode. Je peux prendre une ligne tangente à la courbe par le point R, trouver un autre point S, le refaire, trouver un point T, etc. jusqu'à la fin de l'alphabet. Et même, bien sûr, après. Alors, c'est à cause de ceci, et uniquement, si j'ose dire, à cause de ceci, que les courbes rationnelles auront une structure très simple. Pas du tout simple, mais très profonde, parce qu'il y a cette loi d'addition, cette loi de composition. On peut demander ce qui se passe avec les paramétrisations. Là aussi, il y a une paramétrisation par des fonctions, mais un peu plus compliquées qu'avant. Avant, nous avions bon, les fonctions rationnelles, mais aussi les fonctions trigonométriques qui possédaient une certaine périodicité simple. X de t égale à x de, par exemple, t plus 2pi. Pour les fonctions elliptiques, c'est plus compliqué. On a une... pour les courbes elliptiques, pardon, on a une paramétrisation aussi, je n'arrive pas à dire ce mot, par des fonctions dites elliptiques. Donc ces fonctions-là, x et y, satisfont à deux périodicités indépendantes. Je peux remplacer t par t plus a, ou bien t par t plus b, et dans les deux cas, je trouverai la même valeur. Mais ces valeurs a et b, il ne faut pas penser que je bouge comme ça a, et je bouge un peu plus loin b. Ici, t doit être vu comme un nombre complexe, un nombre deux-dimensionnel, si on veut. A et B sont des directions différentes dans le plan, et je peux donc bouger mon point. Je peux commencer par t et aller vers t plus A ou bien t plus B. Je peux donc indépendamment me déplacer dans l'une des deux directions qui définissent ce réseau dans le plan. Les fonctions qui satisfont à cette double périodicité sont très importantes. Elles ont été inventées et étudiées par des grands mathématiciens du 19e siècle, Gauss, Abel, Jacob et plusieurs autres. Et c'est à cause de ça qu'on appelle ces courbes-ci elliptiques. Les courbes elliptiques. Enfin, pour la troisième, qui sont les courbes de type général, qui sont tout le reste, là, malheureusement, ou heureusement, il n'y a rien comme ça. Il n'y a pas de loi d'addition, il n'y a pas de paramétrisation, il n'y a pas de structure connue, il n'y a pas d'algorithme pour trouver même une solution, certainement pas pour trouver toutes les solutions d'une équation donnée. On dispose d'un seul théorème, mais c'est un très très grand théorème, l'un des joyaux des mathématiques contemporaines. C'est le théorème de Faltings, mon collègue d'ailleurs à Bonn, qui dit que dans ce cas-ci, comme l'avait conjecturé Mordell en 1917, il n'y aura jamais qu'un nombre fini de solutions. Donc, en résumé, pour ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, nous avons trois types de courbes. Les courbes rationnelles, qui sont des courbes de degré 2. Dans ce cas-là, j'ai un choix. Il y a des paramétrisations, soit par des fonctions rationnelles, quotient de polynôme, soit par des fonctions trigonométriques, simplement périodiques. Il y a toujours, à cause de cette méthode de Diophante, un nombre infini de points rationnels. Dans le cas des courbes elliptiques, les courbes de degré 3, il y a cette paramétrisation par les fonctions elliptiques, donc doublement périodiques avec cette périodicité que vous voyez là. Et le nombre de points rationnels, ça je ne l'avais pas dit, peut être fini, peut être infini. Bon, c'est un énoncé un peu vague, ça ne laisse pas beaucoup d'autres possibilités, mais même dans le cas où il est infini, il y a un grand théorème, le théorème de Mordell, qui dit que même si le nombre de solutions est infini, toutes les solutions se déduisent à partir d'un nombre fini en utilisant les méthodes de composition que j'ai expliquées tout à l'heure. Donc ça, c'est le grand théorème à ce niveau-là pour les courbes elliptiques. Et enfin, pour les courbes de type général, grosso modo les courbes de degré au moins 4, il n'y a aucune paramétrisation, enfin on ne connaît aucune, on ne croit pas qu'elle existe. Il y a toujours un nombre fini de points rationnels, mais c'est un théorème très très profond dû à Faltings. Une remarque philosophique. En mathématiques, sans doute en d'autres sciences, mais dans d'autres sciences, on choisit les problèmes par leur importance. Par exemple, en physique, on voit qu'il y a certains problèmes qu'il faut absolument étudier. En mathématiques, on ne sait pas au début quels problèmes seront importants. Enfin, si c'est les mathématiques pures, évidemment, si c'est appliqué, on vient d'un problème donné. On choisit les problèmes par des critères un peu difficiles à dire, mais c'est souvent après l'avoir étudié qu'il faut décider quels sont les bons problèmes. Ici, il n'y a aucune raison a priori pour que la courbe de degré 3 donne lieu à une théorie plus intéressante que les autres. Mais après cette analyse, on découvre que les courbes rationnelles sont trop simples pour être intéressantes du point de vue arithmétique, et les courbes de type général sont trop difficiles, on n'arrive pas à dire quoi que ce soit. Donc, on découvre cette théorie des courbes elliptiques qui, elle, est d'une richesse magnifique. On a vu aussi qu'il y a ici une dichotomie. Dans le cas des courbes rationnelles ou bien des courbes de type général, il y avait soit toujours un nombre infini de solutions, soit toujours un nombre fini. Donc, plus rien à étudier. On connaît la réponse, même si elle est difficile. Mais pour les courbes elliptiques, la réponse est oui ou non, ce qui n'est pas très satisfaisant. Donc, il faut résoudre cette dichotomie soluble, insoluble, résoluble, non résoluble. Il s'avère que ce problème-là, le problème de décider quelle courbe elliptique, un nombre infini de solutions rationnelles, quelle courbe elliptique n'a qu'un nombre fini, est vraiment un bon problème dans le sens que j'ai évoqué tout à l'heure. Et c'est de ça que je veux parler dans le temps qui me reste. Alors, ici aussi, il y a une réponse à cette question, et la réponse va venir d'une théorie que j'ai déjà mentionnée au début, c'est la théorie des fonctions modulaires, ou des formes modulaires, c'est une variante technique. C'est un lien entre deux choses très différentes qui a été découvert lentement par plusieurs mathématiciens, et on a pu formuler une conjecture audacieuse, à l'époque, associée au nom de Taniyama, Shimura et Weil. Cette conjecture dit que chaque courbe elliptique possède toujours non seulement la paramétrisation qu'on a déjà vue par des fonctions elliptiques et qu'on connaissait depuis le 19e siècle, mais aussi une autre paramétrisation par un autre type de fonction, des fonctions modulaires que je vais expliquer dans un instant. Cette conjecture a été démontrée, comme vous voyez là, par Andrew Wiles et par ses collaborateurs, enfin ceux qui l'ont suivi, dans les années 1994 jusqu'à 2000. Et c'est l'un des exploits les plus grands dans toutes les mathématiques contemporaines. C'est d'ailleurs sans doute le plus célèbre. C'est le résultat sur lequel on a lu le plus dans la presse. Vous avez sans doute vu les articles qui sont parus il y a quelques années dans tous les journaux, ou peut-être le livre de Singh, qui a été un best-seller, sur le dernier théorème de Fermat. Et il s'est avéré que cette conjecture-là implique exactement le dernier théorème de Fermat, qui était le résultat, la conjecture la plus célèbre dans toutes les mathématiques, avant qu'il ait été démontré. Donc, voilà le lien entre ces deux choses. Ce lien a été découvert par Frey et par Serre, et démontré quelques années plus tard par Ken Ribbett. Et le lien est l'énoncé suivant, donc, qui était lui aussi une conjecture, mais comme j'ai dit, qui a été démontré par Ribbett. Si on part de l'équation de Fermat, que je n'ai pas dit parce que tout le monde connaît, a puissance n plus b puissance n égale c puissance n, a, b, c étant des entiers positifs, n au moins égale à 3, si on a une telle solution, et on écrit la courbe elliptique très explicite que j'ai notée là, bon, l'équation n'a aucune importance, mais vous voyez qu'elle est explicite, alors on peut démontrer que cette courbe-là n'a aucune paramétrisation par des fonctions modulaires. Donc, comme conséquence, ce que Frey et Serre ont donc prédit, et que Ribbett a démontré, c'est que un contre-exemple au théorème de Fermat entraînerait un contre-exemple également au théorème que Wiles allait démontrer quelques années plus tard. Alors, voilà un lien très inattendu à l'époque, très surprenant encore pour les mathématiciens. Pourquoi cet énoncé un peu étrange sur les fonctions modulaires et les courbes elliptiques implique quoi que ce soit sur cette équation-là, qui est une équation d'ailleurs d'une courbe de type général et pas du tout modulaire. Je veux expliquer brièvement, puisque les fonctions modulaires sont un thème principal pour moi, ce que c'est qu'une fonction modulaire dans cet énoncé. Alors, tout à l'heure, nous avons vu qu'une fonction elliptique avait une double périodicité. Je vous avais montré ici. Une double périodicité, on peut se déplacer dans deux sens indépendants, A et B. Mais, il y a quelque chose de spécial. Ces deux déplacements commutent, comme on dit en mathématiques, entre eux. C'est-à-dire que si on se déplace dans la direction A et après dans la direction B, ou bien qu'on va dans la direction B et après dans la direction A, on arrive au même point. Donc il y a deux périodicités, c'est plus compliqué que la fonction sinus, mais c'est quand même très très simple. Du point de vue graphique, vous allez reconnaître, si vous connaissez le célèbre artiste néerlandais Escher, l'un de ses dessins. Voilà le réseau que j'ai eu tout à l'heure. Et vous voyez que ce réseau, les petits oiseaux, enfin je ne sais pas trop ce que c'est, voilà deux copies de la même chose, si j'arrive à les mettre l'une sur l'autre. Alors voilà une copie identique. Et maintenant je peux me déplacer soit par exemple à droite, à un certain moment je retombe sur le même point, soit en haut. Donc j'ai deux translations indépendantes qui transforment ce réseau en lui-même. Mais comme j'ai dit, et c'est le point essentiel, les deux commutent entre elles, ça n'a aucune importance si je vais avec mon transparent 2 cm à 3 et puis en haut, ou bien inversement. Pour les fonctions modulaires, on a aussi une telle symétrie infinie. On appelle ça une symétrie pour des raisons qui deviennent évidentes, comme vous voyez le dessin. On a aussi pour les fonctions modulaires une symétrie du même type, mais ici beaucoup, beaucoup plus compliquée, tellement plus compliquée qu'au lieu d'écrire des équations, je veux juste montrer un autre dessin du même artiste Escher. C'est le ciel et l'enfer, je crois qu'il appelait ça Himmel and Hell. Et vous voyez des diables et des anges qui, ce n'est pas très très clair, mais bon, vous voyez l'idée. Et là, chaque ange, par exemple, je peux par exemple prendre ce point-là et tourner 120 degrés, et chaque ange et chaque diable va se mettre sur un autre. On peut également prendre ce point-là, ou ce point-là, et tourner aussi 120 degrés. L'ange a l'air de, les anges ont l'air de devenir de plus en plus petits, mais c'est parce qu'ici c'est une géométrie un peu déformée qui s'appelle la géométrie hyperbolique ou non euclidienne. En fait, tous les anges ont exactement la même grandeur et c'est exactement le même genre de déplacement que ce que j'avais ici. Sauf que, ici, si je tourne sur ce point-là par 120 degrés, ce que je peux faire, et puis autour de ce point-là par 90 degrés, ce qui est faisable aussi, ou si je tourne sur ce point-là 90 degrés et après 120 degrés autour de l'autre, je n'arriverai pas au même déplacement total. Donc ici, il s'agit d'un groupe non commutatif, d'une symétrie d'un type beaucoup plus sophistiqué. Alors, cette découverte qui était une conjecture pendant très très longtemps, c'est une conjecture qu'on avait déjà démontrée dans beaucoup de cas spéciaux, mais qu'on n'avait pas en toute généralité, ou même en aucune généralité, je dirais, avant le théorème de Wiles. Cette énoncée est très très profond, parce que cette symétrie infinie veut dire que ces fonctions ont une structure interne beaucoup plus riche que les fonctions trigonométriques ou même elliptiques qu'on avait utilisées auparavant. Donc, il n'est peut-être pas surprenant, mais c'était quand même très surprenant à l'époque, c'était dans les années 60, que cette même découverte, le fait que les fonctions modulaires soient liées aux courbes elliptiques, donne aussi la réponse à notre problème de résoudre la dichotomie résoluble-non résoluble pour les courbes elliptiques. Vous vous souvenez du fait qu'on avait la question quelles courbes elliptiques possèdent un nombre infini de solutions, quelles courbes ont un nombre fini de solutions. Et là aussi, ça va être les fonctions modulaires qui vont nous donner la réponse totale à cette question. Avant de l'expliquer, j'aimerais pourtant vous donner un exemple concret que je vais utiliser dans toute la suite de la conférence pour que vous ayez un problème vraiment explicite dans la tête. C'est un problème très très joli d'ailleurs. Au début de ma conférence, j'ai parlé de l'équation de Fermat, ou de la question plutôt de Fermat, qui était, étant donné un nombre premier P, est-ce que, oui ou non, ce nombre premier peut se décomposer en somme de deux carrés? Alors ça, c'était Fermat, vers 1640 peut-être à peu près, je ne sais pas exactement la date. Et la question que je vais considérer maintenant, qui est due à Sylvester, un mathématicien britannique, vers 1870, donc aussi un peu ancien. C'est exactement la même chose, mais c'est une question beaucoup plus difficile, avec les troisièmes puissances. C'est-à-dire, quel nombre premier peut se décomposer et quel nombre premier ne peut pas se décomposer en somme de deux cubes, de deux troisièmes puissances. Alors, je vous donne quelques exemples numériques. Si je prends par exemple le nombre premier 7, alors je peux écrire 7 comme 8 moins 1. 8, c'est 2 fois 2 fois 2, donc 2 au cube, 2 à la puissance 3, plus moins 1 fois moins 1 fois moins 1, donc moins 1 cube. Alors j'ai l'air d'avoir triché parce que la somme ce n'est pas la différence, mais à la différence des carrés, les cubes peuvent très bien être négatifs. Et donc au lieu de demander la somme, je peux demander la différence, ça ne change rien du tout. D'ailleurs, on va voir dans un instant que s'il y a une solution du tout, positive ou négative, il y aura toujours une infinité de solutions, i positive, i négative, donc on n'a pas de... C'était du russe, positif et aussi négatif. Bon, alors voilà le premier exemple, c'est un peu trop simple. Je prends un autre, le nombre 13. Si vous essayez de faire la même chose avec 13, avec des entiers, vous n'arrivez pas. Mais si vous voyez, par hasard, que 13 s'écrit comme 352 divisé par 27, et que 352 s'écrit comme 343 plus 8, et que 343 est égal à 7 fois 7 plus 7, et 8 à 2 fois 2 plus fois 2, et 27 aussi à 3 fois 3 fois 3, alors vous verrez que le nombre 13 se décompose en somme de deux cubes rationnels ou fractionnaires, cette fois 7 tiers au cube plus 2 tiers cube, enfin puissance 3. Alors là, on voit déjà que c'est un peu moins évident. Je viens de faire la remarque que, comme conséquence de cette loi d'addition ou de composition de solutions qu'on a déjà vue, cette loi qui venait du fait que sur une courbe elliptique, on pouvait prendre deux points et trouver le troisième point d'intersection avec la ligne qu'elle décrive. Avec cette loi, on voit assez facilement que pour chaque premier, sauf encore une fois le premier 2, qui est un peu spécial toujours, que pour chaque premier, s'il y a une solution du tout, j'ai perdu le transparent qui avait ça, j'avais un exemple numérique ici avec 19, voilà. S'il y a une solution du tout, par exemple pour 19, je peux écrire 19 comme 5 divisé par 2 cubes plus 3 divisé par 2 cubes, mais s'il y a une telle solution, il y a automatiquement une infinité. Ici, vous en voyez toute une liste avec des nombres positifs et après avec des nombres négatifs, il existe une infinité de deux types. Alors là aussi, on voit déjà qu'il y a une structure non évidente, mais je veux quand même souligner le fait que ce problème soit très très difficile. Par exemple, si je prends non le premier 7 ou 13, mais le premier 5, il n'y a aucune représentation. Mais comment arrivera-t-on à les démontrer? Vous ne pouvez quand même pas essayer tous les nombres rationnels x et y pour voir que x3 plus y3 n'est jamais égal à 5. Encore plus convaincant peut-être, si vous choisissez le premier français, vous connaissez tous. Alors, là, j'ai écrit une décomposition. Vous pouvez dire que là aussi, si je continue, il y aura des solutions de plus en plus compliquées. Donc, à un certain moment, j'arrive aussi à des solutions énormes. Mais ici, c'est la solution la plus simple, avec le moins de chiffres. Et bon, je regrette de dire, puisqu'il est moins français, mais si on prend le nombre non premier beaucoup plus petit, 382, on a une solution encore beaucoup plus impressionnante. Ça, c'est la solution la plus simple dans ce cas-là. Donc, on voit là un problème qui est vraiment profond, qui peut être sans intérêt a priori, mais le problème même nous force à nous y intéresser. Pourquoi est-ce qu'il y a des premiers comme 5 qui n'ont aucune représentation comme somme de 2 cubes, d'autres comme 7 ou 13 qui ont des représentations très simples et d'autres comme 1789 qui n'ont que des solutions extrêmement compliquées? Et surtout, comment décider pour un premier donné, c'est la question de Sylvester, comment décider si la réponse sera oui ou non? Alors là, je l'ai déjà dit, la réponse vient aussi du même domaine des fonctions ou des formes qui sont plus ou moins la même chose, des formes modulaires. Et cette réponse s'appelle la conjecture de Birch et Swinton-Dyer, deux collègues anglais. Et cette conjecture, bon, je dis sans trop expliquer, je vais dire dans un instant un peu plus. En utilisant la théorie des formes modulaires ou des fonctions modulaires, on peut associer, on peut attacher à chaque courbe elliptique un nombre S, un entier, calculable, je l'appelle le nombre magique, mais un nombre qu'on arrive vraiment à calculer pour une courbe donnée. Et la conjecture dit qu'une fois qu'on a ce nombre, si S, ce nombre S magique, est différent de zéro, alors la courbe n'aura pas de points rationnels, au moins qu'un nombre fini qui sont dans ce cas-là assez triviaux, donc des points qu'on comprend totalement. Donc il n'y a pas de solution intéressante. Si par contre ce nombre S calculable est égal à zéro, alors d'après cette conjecture, il y aura un nombre infini de solutions. Bon, cette conjecture est encore très très loin d'être démontrée complètement. En fait, c'est l'un des sept problèmes présentés dans cet amphithéâtre-ci, il y a plus ou moins exactement un an, pour lesquels le mathématicien, le millionnaire américain Landon Clay a offert des prix $1 million par problème pour trouver les solutions. Donc Fermat n'était pas sur la liste parce que c'était déjà résolu, mais il y avait sept problèmes, bien sûr toujours ouverts, tous les sept, et cette conjecture de Burgess-Swindyer, l'un de ces problèmes. Donc c'est très très loin d'être résolu. Cependant, nous en savons déjà beaucoup. Dans un sens, on connaît la réponse totale. Le premier énoncé ici est déjà un théorème, je vais vous montrer sur transparent dans un instant les noms, mais on sait donc par les résultats de Coates et Wiles et de Kolyvagin que si ce nombre S qui est calculable est différent de zéro, alors la courbe n'aura pas de solution non triviale, intéressante. Ça, c'est un théorème. Dans l'autre direction aussi, il y a un théorème que j'aimerais expliquer au moins brièvement. Ce théorème dit que, bon, on veut donc dans l'autre sens que si S est égal à zéro, il y a un nombre infini. Alors le théorème dit un peu moins, il dit si S est zéro, mais pas trop, alors là, il y aura une solution. Donc il faut que S s'annule, mais pas de façon trop violente. Alors, ça c'est quand même étrange, parce que les nombres sont soit nuls, en général soit non nuls, mais il se trouve que ce nombre-ci que je n'ai pas expliqué du tout, ce nombre que j'ai appelé S majuscule, le nombre magique, c'est à peu près, il y a une petite constante, mais qu'on connaît, c'est plus que juste un nombre, c'est la valeur d'une fonction, une fonction qui s'appelle la série L, lettre choisie par Dirichlet, la série L de la courbe, qui est une fonction d'une variable S ici minuscule, et cette fonction qui est elle aussi calculable, au moins si on sait que la courbe est modulaire, cette fonction-là a une valeur dans le point petit s égale à 1, qui sera soit nulle, soit non nulle. Et là, on voit que la dichotomie devient une trichotomie, si le mot existe, parce qu'une fonction peut faire trois choses différentes. Elle peut ne pas s'annuler dans le point s égale à 1, elle peut s'annuler de façon simple, c'est-à-dire que le graphe de la fonction peut couper l'axe S dans le point S égale 1, ou bien elle peut le couper de façon multiple, c'est-à-dire que le graphe de la fonction sera non seulement nul dans ce point, mais elle ne coupe pas la ligne, elle est tangente à l'axe S dans le point S égale à 1. Donc en termes mathématiques, en formule plutôt, c'était tout à fait mathématique, mais en formule, soit L de 1 est différent de 0, soit L de 1 s'annule, mais la dérivée L accent de 1 ne s'annule pas, soit L de 1 s'annule et la dérivée s'annule aussi. Alors le théorème dont on dispose, le résultat partiel pour le cas, pour le deuxième énoncé de Burgess-Swindyer, c'est un théorème qui a été démontré par le mathématicien américain Gross et moi-même il y a 15 ans à peu près, qui dit que dans le deuxième cas, si la fonction s'annule simplement, donc si S est zéro, mais pas trop zéro, alors il y a effectivement un nombre infini de solutions. Je voudrais peut-être dire dans le temps, c'est juste quelques mots sur la démonstration, parce que il y a quelque chose de très joli. Non seulement on démontre qu'il existe un nombre infini de solutions, je vais peut-être vous montrer en transparent avec les résultats que je viens de dire, en résumé. Ce qu'on fait, en fait, c'est de les construire par une méthode qui s'appelle la méthode de point de Eigner. Et l'idée très simple est qu'on avait cette paramétrisation x égale x de t, y égale y de t. On choisit pour t certaines valeurs très spéciales, convenablement choisies, et ça nous donne des points x, y sur la courbe. Un certain nombre de points. Ces points-là ne sont pas rationnels. Mais je peux les composer par la méthode que j'ai déjà expliquée et trouver la solution totale, enfin la solution de Eigner composée, qui sera, elle, toujours un point rationnel. Mais il y a un ennui. Quand on fait cette addition, il se peut qu'il y ait des cancellations et que tout s'annule. On ne trouve que la solution nulle, enfin la solution vide. Non seulement ça peut se passer, mais ça se passe très souvent, et exactement dans les cas, par exemple, dans le cas où L ne s'annule pas, c'est toujours le cas. Ces points vont s'annuler. Mais si on suppose que L de 1 est égal à 0, alors on fait un calcul qu'on a fait ensemble, un calcul long de à peu près 100 pages, donc un calcul assez compliqué. Et ce calcul montre qu'un certain nombre qui mesure la complexité de cette solution totale est exactement, bon, à un multiple près, L prime de 1. La dérivée de la fonction L. Ergo, si L' de 1 est différent de 0, cette mesure est non nulle et on a vraiment trouvé une solution. Et d'ailleurs, on a vraiment trouvé, par exemple, les grandes solutions que j'ai montrées tout à l'heure, pour 1789 et 382, aucun ordinateur dans le monde n'est capable de les trouver directement. C'est par ce théorème qu'on les construit de façon tout à fait explicite et à la fin, on a les chiffres que vous avez vus. D'ailleurs, ce théorème avec Gross avait exactement comme le théorème de Wiles, c'était moins spectaculaire, mais là aussi, il y avait un autre théorème qui en suivait, par un lien démontré par un mathématicien américain, Goldfeld. Encore une fois, un lien avec une autre branche des mathématiques, et il se trouvait que ce théorème-là, donc mon théorème avec Gross, impliquait aussi la solution d'une vieille problème de Gauss, le problème des nombres de classes. Je ne vais peut-être pas dire quoi que ce soit pour l'expliquer parce que j'ai trop peu de temps qui me reste. Alors, voilà où nous en sommes. Vous pouvez demander ce qui se passe dans le troisième cas, le cas où justement L de 1 s'annule de façon multiple, donc on a cette tangence. Dans ce cas-là, on n'a aucun théorème. Vous gagnez $1 million si vous pouvez le résoudre. Mais il y a deux remarques quand même pour dire que la situation n'est pas aussi mauvaise que ça. Tout d'abord, c'est très rare. La conjecture, c'est que dans l'ensemble de toutes les courbes elliptiques, 50% sont de ce type-là, 50% de ce type-là, et 0% de ce type-là. Il y a des expériments... Non, à ce type. Et c'était d'ailleurs moi la personne qui a voulu montrer que cette conjecture est fausse. J'avais fait des expériences il y a 12 ans, mais maintenant on les a refaites en allant beaucoup plus loin, et ça a l'air vraiment d'être vrai. Donc, pour la courbe elliptique générale, on a soit la situation, la première, soit la deuxième, la plupart du temps. Deuxièmement, même si on se trouve dans ce cas-là, exactement la conjecture de Bird, Swift et Dyer dit que non seulement il y aura des points, mais il y en aura beaucoup plus. Non seulement une infinité, mais une double, une triple infinité de points. Et donc, on peut les trouver très facilement en cherchant. Par exemple, pour 19, tout à l'heure, je vous avais montré toute une ligne de solutions. Il y en avait beaucoup. C'est peut-être dans le... Enfin, c'est la même chose, mais c'est plutôt comme ça. Et c'est justement parce que pour la courbe avec P égale 19, la fonction L s'annule doublement. Tandis que pour le premier français, la courbe n'a qu'un simple zéro et on avait cette solution énorme. Donc dans la pratique, le cas qui est non résolu est très facile en pratique. Et là, on trouve toujours une solution juste avec l'ordinateur. Bon, pour terminer, au moins terminer la partie strictement mathématique, j'aimerais vous montrer deux formules explicites qui donnent ou qui décrivent ce nombre magique S dans le cas de notre exemple de Sylvester. Donc, pour ce problème-là, P égale à X3 plus Y3, ce sont des théorèmes démontrés il y a quelques années par le mathématicien argentin Rodriguez Villegas et moi-même. Il y a plusieurs formules, je vais vous en montrer deux, juste pour que vous ayez une certaine idée du genre de choses qu'on peut trouver. Et aussi pour que les mathématiciens parmi vous aient vu quelque chose de moins connu que de ce que j'ai raconté. Ces deux formules ont l'air totalement barbares, je crois, pour un non-spécialiste. peut-être même pour un spécialiste. Donc je peux vous rassurer que je vais les montrer que je ne vais les montrer que très brièvement. Il n'y aura aucun examen non plus. La première formule a ceci de surprenant. Qu'on cherche une formule pour ce nombre S qui est un nombre entier. Enfin, j'avais même une petite table que je semble avoir perdue. Tiens. J'avais d'autres transparents qui disparaissent. Ça, c'était un exemple d'une série L que j'avais voulu vous montrer. Maintenant, vous savez ce que c'est qu'une fonction L dans un exemple concret. J'avais aussi une petite table pour la valeur de S. Par exemple, si je prends pour P 5 ou 7, alors là, on aura 1, là, on aura 0, là, on aura 0. C'est justement pour ça que là, il y avait des solutions, là, pas. Donc, il s'agit de trouver ce nombre S. Or, la formule que je vais vous montrer, la première, a ceci de surprenant. Le nombre S est un entier, mais la formule que je vais donner pour S n'est pas du tout, n'a pas du tout l'air entier. C'est une formule à l'aide de fonctions transcendantes. Et voilà la formule. Je prends le nombre, j'associe au nombre P le nombre alpha P, que voilà, une constante C, fois la somme que vous voyez, 1 sixième plus 1 sur A puissance P plus 1, etc. À la fin, la racine troisième de P. A et C sont des constantes explicites, E puissance pi sur racine de 27, et C est choisi de telle façon que si je prends P égale 1, le résultat sera 1 sur 54. Alors voilà une formule que vous n'avez pas besoin de lire, mais vous voyez que c'est une formule explicite. Si P est égal à 19, je peux calculer ce nombre à une centaine de chiffres si je veux, et très facilement d'ailleurs. Alors, on démontre à l'aide de la théorie des fonctions modulaires que ce nombre alpha P qui est défini de façon purement transcendante, pas du tout algébrique, est quand même un nombre algébrique de degré exactement 2P moins 2. Je me suis placé dans le cas où P est égal à 9K plus 1, j'aurais dû le dire, juste pour ne pas mentir. Il se trouve que tous les autres cas sont beaucoup plus faciles, donc c'est le seul cas difficile. Alors, ce nombre-là est un nombre entier de degré 2P moins 2. Donc, la solution d'une équation algébrique, alpha p puissance 2p moins 2 plus S1 fois alpha p puissance 2p moins 3, etc. Et la réponse à notre question, c'est que S, le nombre cherché, est égal à ce coefficient S1 dans cette équation. Alors, une formule vraiment très, très surprenante. La deuxième formule, toujours avec Villegas, est d'un type très différent. On définit une certaine suite de nombres qui commence comme ça, B0 égale à 1, B1 égale à 2, B2 égale à moins 152, etc. Ce sont des nombres qui croissent très vite, comme vous pouvez le voir, et on les calcule par un algorithme un peu compliqué, mais totalement élémentaire, donc on peut le montrer à quelqu'un au lycée. Voilà un dessin qui montre comment le calculer, et pour ceux entre vous qui aiment ce genre de jeu, si vous étudiez ce dessin pendant quelques minutes, peut-être pas maintenant, vous verrez comment ça marche. Mais en tout cas, les nombres que je cherche, 1, 2, moins 152, 6848, etc., se trouvent au bord droit de ce dessin qui se termine là. Et à part ça, chaque nombre, comme par exemple 2700, les nombres en lettres grecques, sont toujours la somme des trois nombres qui se trouvent au nord-ouest, au nord et au nord-ouest du nombre, avec des coefficients qui se trouvent dans un cercle, un ovale et un carré. Et les coefficients-là sont donnés par des formules très, très simples, très banales, que vous trouverez sans difficulté si vous cherchez pendant 5 minutes. Donc, on a un algorithme très explicite pour donner de certains nombres qui n'ont rien à faire, apparemment, avec notre problème. Et maintenant, le théorème qu'on a trouvé, c'est que si, pour un premier P, comme j'ai dit, du type spécial 9K plus 1, parce que les autres cas étaient déjà résolus, et la réponse est très très simple dans tous les autres cas, pour un tel premier, si P ne divise pas le nombre, ce grand nombre BK dont il s'agissait, et que j'ai perdu, enfin, trop de transparent là, si P ne divise pas BK, alors notre nombre magique S sera différent de 0, et on sait donc, d'après le théorème de Coates et Wiles, que P ne sera pas la somme de deux cubes rationnels. Si, par contre, P divise BK, alors S sera égal à 0 et on ne sait pas totalement, mais on conjecture, et dans beaucoup de cas, on sait que P est dans ces cas-là la somme de deux cubes. Comme exemple, si je prends 19, 19 a la forme 9K plus 1 avec K égale 2, je prends donc B2 qui est 152, et vous voyez assez facilement dans ce cas-là que 19 divise 152, et donc 19 devrait être une somme de deux cubes, et en effet, 19 est égal à 27 moins 8 qui sont des cubes. Même jeu pour 37, 37 est égal à 9 fois 4 plus 1, 37 divise B4, parce que c'était 9 fois 4 plus 1, B4 est ce nombre grand que vous voyez, et donc 37 devrait être une somme de deux cubes, et en effet, c'est 64 moins 27. Par contre, 73, qui est 9 fois 8 plus 1, ne divise pas B8, qui est le dernier nombre sur cette liste, et donc on sait dans ce cas-là que 73 ne sera pas la somme de deux cubes. Mesdames, messieurs, chers collègues, je suis arrivé à la fin de la partie mathématique de ma conférence et presque à la fin du temps aussi qui me reste, dont je dispose. J'espère que ces deux derniers résultats vous seront montrés un peu, même s'ils n'étaient pas compréhensibles en détail lors d'une présentation aussi vite, à quelle complexité nous mène la recherche des solutions des problèmes apparemment simples, voire enfantins, qui ont motivé notre théorie. Dans les minutes qui me restent, je voudrais mentionner quelques-uns des sujets que j'espère discuter dans les cours que je donnerai cette année et les années suivantes. Il y aura trois thèmes principaux qui ont tous fait leur apparition dans ce que j'ai raconté aujourd'hui. Les équations diophantiennes, et en particulier les courbes elliptiques, les séries L, et les fonctions et les formes modulaires. Je vous ai expliqué aujourd'hui comment les fonctions modulaires peuvent être utilisées pour obtenir des renseignements sur les équations diophantiennes et comment la série L en particulier, associée à une courbe elliptique, détermine la solubilité ou insolubilité de l'équation correspondante. En fait, cela n'est que l'une des raisons pour étudier ces objets qui sont beaucoup plus intéressantes que juste ça. Les fonctions modulaires et les formes modulaires possèdent une théorie très développée ayant des liens avec beaucoup de domaines mathématiques en dehors des équations diophantiennes. Et les séries L, dont celles attachées aux courbes elliptiques et aux formes modulaires, ne sont que des exemples très spéciaux, se sont avérées au cours des dernières 50 années être l'un des outils les plus précieux dont nous disposons pour comprendre les problèmes de la géométrie et de l'arithmétique. Dans mes cours cette année, j'étudierai la relation entre les formes modulaires et les équations différentielles. Ce lien, qu'on connaît depuis plus de 100 ans, est très très riche et a mené dans ces dernières années à de nombreuses applications, non seulement en mathématiques pures, mais aussi en physique théorique, en particulier en la théorie de la percolation, la théorie conforme des champs, la théorie des cordes, la symétrie miroir et la cohomologie quantique. J'espère aussi discuter les liens avec la combinatoire, la théorie des séries θ, et aussi des mock theta functions inventées par le génie indien Ramanujan juste avant sa mort en 1919, et aussi les propriétés et les applications des formes de Jacobi, une sorte d'hybride entre les fonctions elliptiques et les fonctions modulaires, dont j'ai pu présenter la théorie à l'heure toute nouvelle lors d'un cours au Collège de France en 1982, un cours dont mes souvenirs sont restés un peu vagues parce qu'avant chaque conférence, j'ai partagé une bouteille de vin avec M. Serre. Les sujets prévus pour les années ultérieures comprennent l'étude des valeurs spéciales des séries L et, comme thème générique et récurrent, l'utilisation des fonctions transcendantes pour des questions arithmétiques. Non seulement les fonctions modulaires et les séries L, mais aussi d'autres fonctions comme les fonctions de Green, les polylogarithmes et leur généralisation. Le premier cours commence lundi à 16h. J'espère vous y voir. Merci.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.